IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour et bienvenue à l'économie en direct sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes en Île-de-France, en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Merci d'avoir choisi IDFM Radio. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un poumon de la ville d'Enghien. Est-ce que vous connaissez la médiathèque municipale Georges Sand d'Enghien-les-Bains ? C'est un havre de paix et de culture, facilement accessible et baigné de lumière. Un lieu où il fait bon se retrouver pour s'évader à travers les pages d'un livre ou s'enrichir grâce aux diverses activités proposées, dont une très récente, la Gréno Bouturothèque. Un espace privilégié qui offre un cadre propice à l'échange des savoirs autour du jardinage. Ce matin, vendredi 4 avril, dans l'économie en direct, j'ai l'immense plaisir de pouvoir partager avec vous la découverte de ce lieu incroyable en plein cœur de cette médiathèque municipale Georges Sand d'Enghien-les-Bains. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir quatre invités. Bonjour Françoise Pantier.
Bonjour.
Je suis vraiment ravie de vous recevoir enfin dans nos studios pour cette interview exclusive. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Alors, directrice de cette médiathèque Georges Sand, vous nous direz tout sur les vastes ressources culturelles offertes par ce lieu, auxquelles s'ajoute depuis peu celle donc de la Gréno Bouturothèque. J'ai appris à le dire, hein,
bravo.
Depuis l'autre jour, dont vous allez tout nous dévoiler dans quelques instants. À vos côtés, Laetitia Vaudin. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Ravie de votre présence chez IDFM Radio. Bibliothécaire chargée de livres documentaires en direction des publics ados-adultes. Vous vous décrivez comme briseuse de stéréotypes. Et je ne vous cache pas que j'ai hâte d'en savoir plus sur le sens de cette mission. Vous œuvrez avec passion dans cet espace où chacun peut venir librement pour lire, consulter, écouter ou emprunter. Vous nous expliquerez tout cela dans quelques instants. À vos côtés, Bruno Magret. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Également ravi de pouvoir vous accueillir à l'économie en direct. Philosophe, praticien, enseignant, formateur, animateur socioculturel. Vous animez à la médiathèque Georges Sand les ateliers philo pour les enfants et les adolescents. Vous nous expliquerez votre méthode pour transmettre cette approche à l'épanouissement de la pensée et le dialogue interculturel.
Et les adultes aussi.
Les adultes. Ah bah voilà. Bien, vous avez raison de me reprendre. Je préciserai les adultes. Merci Nicolas. Merci Bruno, pardon. Et à vos côtés, Nicolas Combassuc. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Très heureuse de vous rencontrer. Directeur de l'action éducative à Enghien-les-Bains, eh bien, vous nous décrypterez le sens de votre rôle et toutes les actions qui sont menées par vos soins. Bienvenue à tous les quatre au micro d'IDFM Radio.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Alors, c'est l'économie en direct. Merci d'avoir choisi IDFM Radio et d'être à notre écoute ce matin. Françoise Pantier, voilà quelques années maintenant que nous nous connaissons.
Tout à fait.
Et que vous dirigez la médiathèque municipale Georges Sand d'Enghien-les-Bains. Je vous laisse vous présenter auprès de nos auditrices et auditeurs.
Oui, merci Jacqueline. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, de m'exprimer sur les ondes locales. Pour ma part, et très rapidement, on le rappelait à l'instant, le temps passe, ça fera 20 ans cette année, au mois de septembre, pour être plus précise, que j'officie à la mairie d'Enghien et plus précisément à la direction de la médiathèque Georges Sand. La preuve que c'est un métier très riche, qui évolue, qui oblige à se former, à se remettre en question, à ouvrir grand ses écoutilles pour être à l'écoute des besoins, des envies du public. Et Dieu sait que les mutations sociétales sont là.
Sont là, oui. Et on est en plein bouleversement, on peut dire, même en ce moment.
Et ça s'accélère.
Oui, c'est vrai.
Donc, que vous dire sur le rôle Bah, des médiathèques et puis de la nôtre. Oui. Vous avez de façon tout à fait délicieuse présenté la médiathèque Georges Sand. C'est vrai qu'on a de la chance parce que en fait Enghien est une, on va dire, reste une petite ville, je crois 11 600 habitants, avec une structure, je le dis toujours, idéalement placée en cœur de ville.
C'est vrai.
Et dont l'échelle permet aussi de garder cette proximité avec nos adhérents, avec le public. Donc pour ce qui est de la médiathèque Georges Sand, depuis que je suis là, rappeler qu'elle a été créée en 2001, elle est passée d'une bibliothèque à une médiathèque, et qu'elle a subi plusieurs transformations, et c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir la faire évoluer énormément. Donc pour rappeler des grandes étapes, depuis 2006, il y a eu d'abord de grosses transformations dans le des travaux de murs importants. On a créé l'espace multimédia qui s'appelle aujourd'hui l'espace images et sons, avec un fond. Cet espace est passé à une ouverture à plein temps. Sans aller trop loin non plus, c'est ce développement qui a été très important de cet espace-là. Et puis après, en 2013 aussi, de gros travaux de murs. On a créé, à la demande de Monsieur le maire, un espace complètement dédié à la BD.
Oui.
Hein, puisque les collections étaient à la fois fondues dans l'espace jeunesse et l'espace adulte. Donc là, c'est un très bel espace dédié. Donc on a pu développer ce fonds. Et puis aussi très vite, donc 2013, ça fait déjà une bonne grosse décennie, on est passé à la RFID, l'automatisation des prêts qui facilite l'emprunt et le retour des documents et qui permet aux agents d'être plus disponibles pour le conseil auprès des publics. Donc ça, c'était une grosse évolution avec les ressources numériques, les films en ligne qu'on appelle la VOD, la presse en ligne, les logiciels d'auto-formation. Donc toute cette restauration a bien fait évoluer le lieu et ça c'est très très important puisque les médiathèques ont de plus en plus un rôle d'identité très très multiple, donc il faut suivre ces besoins-là avec un accès qui reste toujours des outils d'abord de connaissance au savoir, de formation aussi tout au long de la vie avec ces logiciels très variés. Il faut rappeler qu'on offre l'auto-formation pour le code de la route, les langues vivantes,
d'accord,
mais aussi le développement personnel. Mmh. Ça, ce sont des offres qu'il faut être adhérent, bien évidemment, pour cela, pour les films en ligne, la presse en ligne. Mais c'est une offre très large et qui n'est pas forcément connue de tous.
Oui, on peut dire que tout est pensé pour répondre à toutes les demandes possibles.
Au maximum, on essaie. Voilà. Donc c'est vrai que, et de plus en plus, j'irai même depuis la pandémie, le confinement, ce rôle majeur en tant que lieu de socialisation de plus en plus, qui est formidable en tout cas ici en France et je pense en Europe, c'est de rappeler que l'accès aux locaux des médiathèques et la consultation sur place est entièrement gratuite.
Oui, oui.
On a des personnes isolées qui viennent, qui peuvent venir vivre à la médiathèque, oui, et c'est le cas, toute la journée sans avoir à payer une adhésion pour consulter sur place, trouver de la chaleur humaine, boire un café, un thé, dialoguer avec nous.
Je vois d'ailleurs, je vous coupe Françoise,
oui,
mais vous avez une personne fidèle qui vient faire des puzzles et je crois qu'elle y est des journées entières, donc
oui,
je me dis que pour elle c'est formidable parce
absolument
que, voilà, elle,
donc dans les transformations que vous évoquiez, bon, effectivement cette Grénoble-Boutureautec, mais je laisserai
on va y arriver.
Laetitia Baudin qui était le chef de projet, mais on a développé aussi effectivement récemment, je disais depuis le confinement, les gens jouent à nouveau à des jeux de société. À Enghien, on a décidé de pas, parce que c'est une lutte aussi pour les parents et les enfants, de pas développer les jeux vidéo, mais il y a une vraie attente pour les jeux de société. Donc on a un fonds maintenant, les jeux peuvent emprunter, peuvent venir tester nos jeux le vendredi soir, tous les vendredis soirs de 17h à 18h30, et ça crée une vraie émulation. Avec des jeux sur place, comme où là on peut jouer tout le temps, c'est du collectif, le puzzle, le scrabble, les échecs, le jeu de dames. Donc des espaces qui deviennent de plus en plus des lieux de vie, des espaces démocratiques qui doivent garantir le droit à l'information de tous les citoyens, mais aussi un vrai lieu de socialisation. Voilà. Après, il y a notre programmation, effectivement, qui est assez dense, assez riche. Des espaces de débat sont créés, de rencontres avec nous invitons chaque mois, sur les 10 mois de la saison, des auteurs de renom sur des
conférences
sujets
de qualité,
des sujets de société. Là, on est obligé d'aller d'emprunter l'auditorium du Centre des Arts. Donc, c'est une collaboration, et c'est ce que j'apprécie beaucoup aussi à Enghien.
C'est-à-dire, vous êtes obligé d'emprunter l'auditorium parce que vous avez du succès, vous avez beaucoup de monde qui vient à ces conférences.
Absolument, c'est un auditorium de 370 places chaque mois. Donc, je rappellerai tout à l'heure la programmation à venir, ce niveau-là, jusqu'à la fin de l'année. Mais voilà, les médiathèques, et c'est un métier à la fois complexe et très riche, puisque on est entre eux, effectivement, il faut être à l'écoute des citoyens dans leur aspiration, je dirais, personnelle et collective, et on devient les passeurs, mais les opérateurs de tout c'est possible. Donc après, il s'agit pas de répondre, mais pourquoi pas, il y a des médiathèques qui aujourd'hui proposent aux habitants de faire du tricot, d'utiliser une imprimante 3D, de prêter des ustensiles de cuisine. Bon, nous on choisit, après c'est comme la politique d'acquisition, on doit répondre, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas une ludothèque, mais on a décidé, parce qu'on est à l'écoute ici un peu du caryotype aussi en guénois, c'est le jeu de société. On décide de moins aller sur le jeu vidéo parce que les parents luttent contre l'usage excessif des écrans. Mais voilà, nous on a développé notre créneau bouturothèque, on en parlera ensuite. Les jeux vidéo, ces conférences qui plaisent énormément, les cafés ateliers philo, parce que ces lieux de débat, de rencontres sont extrêmement riches et essentiels pour tous. Voilà, donc se socialiser avec les habitants, construire un nous. Et puis, à l'heure où je dirais où la solitude est là aussi, la fracture sociale, et donc tout ça est loin d'être inutile.
Parfaitement. Vous m'aviez dit que la médiathèque offrait de multiples ressources et vous venez de nous le prouver. Je voudrais juste faire une parenthèse sur vos conférences avec les auteurs. Est-ce vous qui allez à leur recherche ou c'est eux qui viennent vers vous quand vous... Ou les deux?
Non, il faut aller chercher. Oui. Alors depuis, ça fait bien une douzaine d'années maintenant qu'on a fidélisé autour de
vous
cette...
Vous êtes référencée maintenant.
Oui, absolument. Et puis, il n'y a pas de recette absolue. Chaque fois, la démarche est différente. À une époque, je courais les forums FNAC pour rencontrer des personnalités du monde littéraire. Je faisais la queue, comme tout un chacun, pour dédicacer le livre, et j'en profitais pour leur glisser ma lettre d'invitation. Ça marchait ou pas. Oui. Après, j'ai eu des appointements avec différentes maisons d'édition par département. Depuis 7-8 ans, je travaille avec, on va dire, une personne, Angela Souline, attachée culturelle, qui m'aide parce qu'elle a un réseau à rencontrer. Mais c'est jamais facile. Et il faut chaque fois faire cette médiation, aller à la rencontre. C'est presque un travail de terrain, de globe-trotter. Il faut absolument tisser du lien. Mais plus, effectivement, on arrive à attirer les auteurs parce qu'on remplit de plus en plus. Donc, on promet une belle dédicace.
Ça devient une
belle vente des ouvrages, donc ça se construit et ça fait boule de neige et ça permet après de grossir le réseau et de pouvoir recevoir de belles personnes, et c'est un vrai plaisir Ça, c'est la part belle du métier, oui, parce que les gens qui viennent après, pendant une semaine à la médiathèque, on en parle, on se gargarise de comment ça s'est passé. Alors, il y a des critiques, hein, on aime, on n'aime pas, on peut aimer l'auteur et être déçu par l'homme.
Ça fait évoluer,
mais c'est pas grave, tout ça, ça crée un débat très riche et c'est ce qui compte. Voilà.
Alors, Françoise, juste avant de parler de la Grenoble-Butyrotech, vous m'avez fait une remarque, après tout ce que vous nous avez dit sur la médiathèque qui est magnifique, vous demandez quand même comment donner le goût de la lecture et de la culture.
Ah ben c'est la grande question des parents déjà, et puis de notre métier, comment développer le goût de la lecture et de la lecture publique. Alors on dit souvent il y a le modèle à la maison, il faut déjà que le livre soit présent, il n'y a pas des bibliothèques dans tous les intérieurs, il y a le voir aussi ses parents et son entourage lire. Il y a le rôle de l'école, Monsieur Kobazuk en parlera, des partenariats qu'on peut avoir aussi ensemble entre services pour proposer des salons du livre. Le week-end dernier, en partenariat avec la librairie Croco-Livre,
on propose qui est très active.
Tout à fait.
Avec nous aussi, elle est très active. Oui.
Et puis, pour ce qui est de notre métier, ce sont des ateliers avec les établissements scolaires. Laetitia en parlera peut-être très prochainement. Nous recevons, alors que ce soit les établissements publics ou privés, autour d'un atelier là cette année aussi. C'est avec l'enseignant qu'on décide par rapport à leur programme, à leur séance pédagogique. Ce sera sur la poésie. La gastronomie, je crois. Et puis, nous, on se creuse la tête pour animer de la façon la plus pédagogique, ludique possible. Et ça, ma collaboratrice est extrêmement compétente. Alors, il peut y avoir des quiz, il peut y avoir des lectures que nous, on va ouvrir, on va lire, on va leur montrer pour les aider à passer au-delà de la pudeur initiale. Et puis après, ça prend très vite. Les jeunes se prêtent au jeu. Et puis bien sûr, il y a l'accueil des scolaires, ça, toute l'année à la médiathèque. Que dire d'autre pour donner le goût de l'art à une époque aussi. Et ça, je trouve, c'est ça qui est très beau dans les lieux comme le nôtre, parce que c'est à la fois, je disais, c'est le culturel, mais on peut plus, et de moins en moins nous étiqueter, ça s'élargit.
Oui, dissocier, oui.
Voilà, on a fait de très beaux accrochages d'expositions, de grands photographes, donc je viens à la médiathèque pour jouer aux dames et je tombe sur une démarche artistique un peu par hasard, parce que tout le monde ne va pas au musée, n'a pas l'occasion d'y aller, et ça peut créer des déclics extraordinaires que de découvrir par hasard une exposition accrochée picturale ou photographe ou une démarche artistique par hasard, et ça peut créer des clics. On aurait envie de créer par exemple une artothèque, ça j'aimerais beaucoup le faire. Ça permet de prêter des œuvres comme on prête des livres, des DVD ou des bandes dessinées, et j'ai le droit d'avoir une œuvre accrochée dans le mur de mon salon pendant 2-3 mois. Ce sont des projets, on a beaucoup d'idées, mais ça serait extraordinaire.
Bon, donc, je suis sûre que depuis que vous êtes arrivée, donc il y a 20 ans, la médiathèque n'est plus du tout celle que vous avez connue. Donc, je crois que vous avez encore beaucoup de choses à faire et on est sûr que vous y arriverez, Françoise.
Merci beaucoup.
Alors donc, vous venez nous parler aussi, surtout aujourd'hui, de cette Butyrotech et de son rôle dans la communauté d'Enghien-les-Bains. Je propose qu'on fasse juste une courte pause et puis on reprend juste après. Merci.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
C'est l'économie en direct ce matin sur IDFM Radio et nous recevons dans nos studios Françoise Panetier, directrice de la médiathèque Georges Sand, Laetitia Vaudin, bibliothécaire chargée de livres documentaires en direction des publics ados-adultes, Bruno Magret, philosophe, praticien, enseignant, formateur, animateur socio-culturel, notamment d'ateliers philo pour les enfants, adolescents et adultes, et Nicolas Combassuc, directeur de l'Action éducative à Enghien-les-Bains. Alors Françoise, juste avant de donner la parole à Nicolas Combassuc, vous avez des dates à nous donner, je crois, pour votre prochaine programmation.
Oui, absolument. Donc, vous signaliez certains temps forts à ne pas rater. Concernant les conférences à venir, et on a pu un petit peu anticiper, et j'en suis ravie, jusqu'à, disons, la fin de l'année 2025, avec très prochainement, donc dans 3 jours, le 7, l'académicien Antoine Compagnon, autour de son ouvrage « La littérature, ça paye ». Donc, la question de l'utilité de la littérature, on est vraiment ravis de l'accueillir. Ce livre-là est paru l'an passé et il aura une actualité très fraîche ou très chaude autour de qu'il présentera également déshonorer le contrat paru chez Gallimard autour de Roland Barthes et de la question de la commande. Roland Barthes, en fait, on l'ignore pour la plupart, écrivait sous commande et en fait, comment est-ce qu'il a pu s'épanouir en tant qu'auteur pour déroger un petit peu. Ce sera un merveilleux moment à venir pour le mois de mai, puisque ces rendez-vous sont mensuels. Nous recevrons Daniel Milhaud, qui est un philosophe historien, également romancier et cinéaste, enseignant-chercheur, autour de son livre « La survie des médiocres, critique du darwinisme et du capitalisme ». Donc ça, ce sera le jeudi 15 mai, toujours à l'Auditorium du Centre des Arts, et toujours à 19h, rencontre dédicace. Au mois de juin prochain, plus exactement le mardi 10 juin, à 19h, toujours au Centre des Arts, le romancier Philippe Besson, vous parlez de mon fils. Philippe Besson, je le rappelle, est auteur d'une vingtaine de romans sur la période estivale. On va dire qu'il ne se passera rien. Septembre. 11 septembre, jeudi 11 septembre prochain, nous aurons l'immense plaisir de recevoir Boris Cyrulnik, convoité depuis des années. Mm-hmm. Pour vous dire combien on est pugnace, quand vous me demandiez, Jacqueline, comment faisais, il faut quand même...
On peut s'inscrire dès maintenant pour le 11 septembre.
Absolument, le tableau des inscriptions est ouvert et son livre est paru tout juste en mars dernier sur la question de l'attachement, de l'amour et des 1000 directions que nécessitent ces transactions de l'état amoureux. Quand on tombe amoureux, on se relève attaché. C'est paru récemment chez Odile Jacob, donc un merveilleux moment en compagnie de Boris Cyrulnik au mois de septembre prochain. Et puis, c'est quand même déjà statué. Nous aurons le plaisir, donc, au mois d'octobre prochain, que je m'y retrouve, au mois d'octobre, Fatou Diome, qui, je n'ai pas encore le titre du livre, qui paraîtra chez Albin Michel, mais c'est une combattante de la liberté et de toutes les formes d'intolérance. Je suis absolument ravie de recevoir cette magnifique femme. Donc ça, ce sera le 8 octobre sur son livre à venir. Et la romancière Karine Thuil, le mardi 25 novembre prochain, autour de son livre qui vient de paraître, « La guerre par d'autres moyens ». Et comme elle le dit, elle regarde à travers ce roman les hommes tombés. Donc on est là à travers un roman dans l'arène des puissants, l'antichambre de l'Élysée et sur les marches du Festival de Cannes. Une tyrannie, elle dénonce la tyrannie des apparences et la solitude du pouvoir.
Donc voilà. Voilà, un programme très chargé et très très intéressant où j'espère que les auditrices et auditeurs auront déjà noté et puis pourront s'inscrire.
Les tableaux d'inscription sont ouverts, fait. Et j'oubliais, pardonnez-moi, la dictée.
Ah oui.
Il y en a toujours une à l'automne et toujours une au printemps. À l'automne, elle est sous forme de concours avec un podium et puis des récompenses. Et celle du printemps est plutôt, je dirais, un atelier d'orthographe en autocorrection. Donc ça se passe en un temps et en une journée, celui-ci, Et le prochain est donc le samedi 26 avril à 14h30 à la Serrurie, avec toujours un texte créé par Jean Chalvin pour Enghien, qui était le Dico d'Or 2003. Cette année, le titre « Que les eaux d'Enghien vous donnent force et courage ».
Ah, très bien. Parfait, ben merci beaucoup Françoise, et puis surtout merci d'avoir si bien présenté ce lieu hein, incontournable d'Enghien-les-Bains qu'est la médiathèque, et puis bravo pour votre engagement à faire de ce lieu un espace de partage et de découverte pour tous.
Merci beaucoup.
On fait une courte pause et puis on reprend avec sur la bouturothèque.
Tu te souviens, les couleurs sur les baskets, les crayons dans les cassettes, je rembobine. Tu te souviens, tous ces rêves pleins nos disquettes, à Paris c'était les States, 1987. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987. Il y a certains jours dans lesquels je me jette et je suis de retour en 1987. En 87. Tu te souviens, les survêtés, les houppettes, Sabrina et 7 sur 7. Dans la cuisine c'était rien que 12 mois sur la planète. L'URSS in excess, on chantait I want your sex. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987. Il y a certains jours dans lesquels je me jette et je suis de retour en 1987. Je retourne en 1987. En 87. Tu verras bien qu'un jour une chanson dans la tête, tu l'auras à ton tour, ton 1987. Tu verras bien qu'un jour une chanson dans la tête, tu l'auras à ton tour, ton 1987. C'est tout ce que je te souhaite. Tu l'auras à ton tour, ton 1987. C'est tout ce que je te souhaite. Tu auras à ton tour ton 1987. C'est tout ce que je te souhaite. Tu auras à ton tour ton 1987.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct et ce matin, vendredi 4 avril 2025, focus sur la Grenoble-Bouturotech d'Enghien-les-Bains, un espace au cœur de la médiathèque municipale Georges Sand. Pour en parler, Françoise Pantier, Laetitia Vaudin, Bruno Magret, Nicolas Combassiuc. Alors Laetitia, j'ai cru comprendre que c'était vous la chef de projet de cette Bouturotech. Mais juste avant, je voudrais mieux vous présenter puisque vous êtes la bibliothécaire, chargée de livres documentaires en direction des publics ados-adultes. On peut dire que vous êtes le vrai, véritable trait d'union entre les livres et les usagers. Est-ce bien ça?
Oui, je rajouterai même encore un autre trait d'union. Enfin non, je l'enlèverai, le trait d'union. Nous sommes la porte ouverte pour l'ensemble des usagers qui viennent en bibliothèque ou qui ne viennent pas en bibliothèque, qui n'aiment pas la lecture ou qui aiment la lecture ou qui ont simplement une question à poser. Donc alors, pas de trait d'union que des portes ouvertes.
Pas de trait d'union, très bien. Alors j'ai vu que vous aviez un parcours académique assez dense. Peut-être juste un mot pour nous dire comment vous êtes arrivée à la médiathèque d'Enghien-les-Bains.
Ah, ça a été une très longue démarche. Comment je suis arrivée à la médiathèque d'Enghien-les-Bains? Eh bien, j'avais envie, d'un point de vue très très pratique, me rapprocher de mon domicile. Mais après, pourquoi je suis arrivée en bibliothèque? Là, c'est plutôt le cœur du sujet. Tout simplement parce que j'avais à cœur de pouvoir justement me donner et transmettre la lumière pour pouvoir avoir un chemin beaucoup plus fluide dans ce monde un peu fluctuant. Donc c'est pour ça que j'en suis arrivée à travailler en bibliothèque. C'était pour moi un très beau champ de curiosité en fait.
Un champ de curiosité qui vous a amené donc à la Bouturotech puisque c'est le sujet du jour. Là aussi cette idée, comment est-elle venue?
Alors les Grenoble-Bouturotech en bibliothèque, on y a pensé dans la profession depuis fort longtemps. Mais je pense qu'on était trop en avance par rapport, on va dire, aux stéréotypes qu'on colle encore aux bibliothèques. C'est vrai que c'est la bien nommée. Dans biblio, on entend le mot livre. Mais en fait, plus ça va, plus ce monde, comme je vous disais, fluctuant et assez incertain, les bibliothèques s'emparent justement des questions de société et voire même des questions mondiales qui se posent à nous aujourd'hui, à savoir le patrimoine vivant. Donc au-delà des mots, au-delà des sciences, il y a aussi un patrimoine vivant que l'on doit transmettre, préserver et au mieux enseigner comme on le peut. Et donc les Grenoble-Bouturotech, bien qu'elles aient eu beaucoup de création par le passé, n'ont pas connu le succès qu'elles auraient dû mériter. Aujourd'hui, je pense que c'est en train de reprendre de la superbe. C'est tout l'intérêt d'avoir ce patrimoine vivant au cœur même d'un service public tel que les bibliothèques. Ça sert à ça, une Grenoble-Bouturotech, à pouvoir transmettre à la fois les savoirs inconnus liés au patrimoine vivant, au patrimoine sensible. Mmh. Pour certains, on dira le patrimoine non vivant, ils me comprendront, parce qu'il y a du grand débat entre ce qui est vivant et non vivant. Et justement, se reconnecter à tout ce qui nous entoure. Voilà, c'était la mission des Grenoble-Bouturotech aujourd'hui, avec un petit volet lié à la participation citoyenne, où en fait le citoyen devra prendre part justement à la vie de ce service public lié à ce patrimoine-là. Donc tout le monde détient un savoir, tout le monde détient une connaissance, et nous,
partager,
étant un service d'appui, les gens sont bienvenus pour faire part de leurs connaissances autour de des végétaux, autour de la nature, autour de la biodiversité.
Alors, vous avez prononcé le mot citoyen. Je crois que c'est le moment peut-être de passer la parole à Nicolas Combassiuc parce que ce projet de Grenoble-Bouturotech s'inscrit complètement dans votre mission, Nicolas.
Complètement. Avec toute l'équipe, du coup, on a eu la chance de pouvoir justement partager ce projet ensemble et travailler sur la notion d'éco-citoyenneté ou même de d'engagement ou comment les jeunes, les enfants peuvent participer à ce projet. Alors il y a un exemple concret qui s'est déroulé il y a peu de temps, c'était une rencontre des éco-citoyens à l'échelle locale avec les collèges et les écoles élémentaires du secteur, et donc ces éco-délégués on les a rencontrés, et lors de cette rencontre ça a été aussi l'occasion donc avec le maire et toutes les équipes de la ville d'un échange autour du sujet de l'environnement, de l'éducation, au développement durable, qui renvoie pas seulement à la nature mais... Bien entendu, un sujet, c'est effectivement la nature. Et donc, à cette occasion-là, il y a eu plusieurs tables rondes, donc sur le bâtiment, l'architecture, les espaces verts, les déchets, mais également...
Le spectre est très large.
Notre patrimoine, quelque part, et comment on amène l'information aux enfants, à notre jeunesse, à notre patrimoine vivant. Et donc, on a eu la chance d'avoir toute l'équipe de la médiathèque qui est venue animer une table ronde et qui a quelque part permis à ces jeunes d'assouvir une curiosité, ce que disait Laetitia, et puis de découvrir finalement l'arrivée de la bouturothèque à la médiathèque et de pouvoir faire cette passerelle vers ces jeunes éco-délégués qui sont de véritables ambassadeurs quelque part de demain, c'est-à-dire comment on peut préserver, avoir une activité entre guillemets consciencieuse du patrimoine naturel tout en faisant tout ce qu'on a besoin de faire demain. Donc ça a été extrêmement intéressant parce que les jeunes ont eu à la fois accès à la connaissance sur ces temps d'échange mais aussi ont pu faire des propositions, et donc ils ont à cœur de faire vivre cet espace et d'être ambassadeurs, c'est-à-dire de pouvoir communiquer également sur ce qui est possible de faire au sein de la bouturothèque. La deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'était également le fait qu'on ait un écolieu qui a également travaillé avec la médiathèque, qui est un espace vivant, qui est un parc complètement préservé et réservé à la jeunesse et à l'enfance, sur Enghien-les-Bains, qui a donc un patrimoine naturel et donc faune et flore assez extraordinaire, et qui ouvre ce parc aux écoles, aux jeunes, aux enfants, de manière à amener donc des savoirs. Et donc ce lieu, qui est un lieu d'expérience, d'atelier pour les enfants, pour les familles, a également la chance maintenant de pouvoir voyager. Voyager grâce à la bouturothèque en allant dans le monde entier et à travers les ouvrages, les livres, mais également les choses qui sont ramenées un petit peu de partout et qui permettent à nos jeunes pas seulement d'avoir un ancrage local avec cet écolieu Parc Sainte-Jeanne, mais également de pouvoir voyager grâce à la bouturothèque de la médiathèque.
Et est-ce que vous aviez envisagé toute cette... justement, je parlais de spectre large. Est-ce que vous aviez envisagé au départ, quand la Grenoble-Bouturothèque a été créée, toute cette richesse qu'elle allait déployer? Peut-être pas, c'est venu au fur et à mesure. Laetitia?
Alors, oui. C'est venu au fur et à mesure. Comme je vous disais, les grénothèques, elles n'ont pas eu beaucoup de succès. Et en fait, aujourd'hui, je pense que les bibliothèques sont en train de revivre la chose, de remettre justement la question du vivant au cœur de la question humaine, en fait, de la question de société. Donc oui, il y a un intérêt aujourd'hui à ce que chaque bibliothèque de France et de Navarre possède en son lieu autre que les livres, un grainotier, un moyen de pouvoir disposer de graines, de variétés anciennes, à la disposition des gens et surtout reproductibles, non hybridées. Mm-hmm. Car même la nature a ses limites quand elles sont privatisées. Mm-hmm. Donc tout citoyen doit réapprendre à se reconnecter, à revivre son vivant. Donc de l'intérêt, au même titre qu'un bon roman, au même titre qu'un très bon film ou de lutte contre l'illettrisme, il faut lutter aussi contre justement cette distance face à la nature et redonner aux citoyens son autonomie et donc son patrimoine vivant qui passe aussi par des graines et des boutures.
Alors, Françoise, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais ajouter à la parole de Nicolas et Laetitia de dire combien Dans le cadre de nos services municipaux, ça a créé du lien. Et effectivement, très tôt, Laetitia et moi, dans la construction du projet même, on s'est rendu compte que nous avions besoin de nos collègues et des autres services. Ce que je veux dire, c'est que ce projet-là permet une véritable transversalité. Parce que c'est le travail commun qui permet de rendre concret cette transversalité. Nous avons eu besoin du soutien des services techniques, des espaces verts, de ce soutien de Nicolas qui a tout de suite compris qu'il fallait sensibiliser les jeunes, donc travailler avec les écoles. Là, on est véritablement enfin, parce que ce mot-là, on l'a beaucoup eu pour créer cette transversalité, il faut des projets comme ceux-là qui nous obligent à être ensemble et travailler ça ensemble. Parce que c'est un sujet aussi très participatif.
Ça a permis de fédérer.
Véritablement. Mmh. Oui, véritablement.
Alors moi, je me disais aussi, en vous écoutant tous les trois, que je voudrais savoir comment vous, Bruno Magret, vous réagissez par rapport à cet engouement vis-à-vis de la Grenoble-Boutureau-Tech, parce que Laetitia a parlé de patrimoine vivant, de connexion. Est-ce que il n'y a pas un lien aussi avec la philosophie?
Ça va de soi. Nous sommes vivants. Je suis toujours étonné lorsque les gens parlent d'aller dans la nature, c'est-à-dire ils ont besoin de verdure, ils ont besoin de... Alors ils font des kilomètres et des kilomètres pour trouver ce qu'ils sont eux-mêmes.
Ah oui.
La nature, nous sommes la nature, nous avons un corps, c'est extraordinaire, un corps, c'est mystérieux, c'est toute une intelligence, et cette nature est là. Et donc c'est le lien qu'il y a entre nous. Nous sommes un à travers la nature. Et donc ça m'étonne pas du tout que lorsque les gens commencent véritablement à s'intéresser au vivant à l'extérieur de soi, qu'il y a des liens qu'ils se créent, parce que c'est ce que nous sommes.
Donc vous êtes tout à fait raccord avec.
Je pense
avec
que l'objectif de la philosophie, en tout cas quand je parle de philosophie, on y reviendra. C'est pas la philosophie particulièrement académique et intellectuelle. C'est quelque chose qui se vit, c'est une transformation de soi. Je pense que tout l'objectif, c'est de retrouver cette unité primordiale, fondamentale avec le vivant, donc avec soi-même et avec les autres.
Donc une belle comment un beau lien, hein,
oui, entre ça, vous crée de ça. Véritablement de l'échange.
Merci, je propose qu'on fasse une nouvelle pause et on se retrouve juste après.
Va savoir s'il n'y aurait pas au fond de nos poches une vieille machine à faire des vœux.
À faire sourire quelques mioches, à leur repeindre leur ciel en bleu.
Va savoir s'il y aurait pas au fond de nos cœurs
un peu de bonheur qu'on peut donner,
rien d'amour à partager, pour de l'espoir à retrouver.
Un, deux, trois petits soleils, comme ces petits bouts de rêve qui attendent un geste au fond des poches, au fond des poches. De petits soleils qui brillent bien mieux au fond de leurs yeux qu'au fond des poches, qu'au fond de nos poches.
Va savoir si nos cœurs ne seraient pas sur nos mains, prêts à servir, à faire du bien
pour tous ces mômes qu'en ont besoin.
Même pas grand chose, même trois fois rien.
Va savoir si ça ne vaudrait pas la peine
qu'ensemble on tente de faire cette chaîne
qui change leur vie en fait foraine. Au moins le temps d'oublier leur peine.
Un, deux, trois petits soleils, comme ce petit bout de rêve qui attend un geste au fond des poches. Au fond des poches. Tellement de petits soleils qui brillent bien mieux au fond de leurs yeux qu'au fond des poches. Au fond de nos poches.
Va donner
à ses bouts de chou et ses ados.
Va donner
l'espoir et le rêve à nouveau.
Va donner parce que ces pièces jeunes peuvent encore parfois se transformer en or.
Et plein de petits soleils comme ces petits bouts de rêve qui attendent nos gestes au fond des poches.
Au fond des poches,
tellement de petits soleils qui brillent bien mieux au fond de leurs yeux qu'au fond des poches.
Au fond de nos poches.
Au fond de nos poches.
fond des poches.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Merci d'être à notre écoute sur IDFM Radio. Ce matin, nous présentons la Grainaud-Bouturothèque en compagnie de Françoise Pantier, directrice de la médiathèque Georges Sand, Laetitia Vaudin, bibliothèque chargée de livres documentaires en direction des publics ados-adultes, Bruno Magret, philosophe praticien, enseignant, formateur, animateur socioculturel, notamment des ateliers philo pour adultes, enfants et adolescents au sein de la médiathèque de Georges Sand, et Nicolas Combassuc, directeur de l'action éducative à Enghien-les-Bains. Alors là, je ne sais plus trop à qui donner la parole, peut-être à nouveau à vous Laetitia, parce que, donc on l'a dit, vous êtes à l'initiative de ce projet de Grainaud-Bouturothèque et on voit tous les bénéfices que la ville d'Enghien peut en tirer.
Eh bien écoutez, oui. Effectivement, et surtout pour cette émission Économie en direct, vous voyez, on sème beaucoup de choses à la bibliothèque. C'est pour ça, venez nombreux. Ce que l'on peut vous dire, c'est que les médiathèques aujourd'hui ont un rôle social majeur qui va bien au-delà de la lecture, qui va bien au-delà de ce que l'on pourrait penser, comme dans les bons vieux films qui présentent une bibliothécaire à lunettes et à chignon. Donc, ce qui peut être intéressant aussi pour vos auditeurs, c'est que sachez que la médiathèque propose une bibliothèque numérique gratuite pour tous les salariés d'Enghien-les-Bains. Donc, que ça soit ma boulangère, que ça soit votre coiffeur ou notre dentiste. Voilà, tous les salariés d'Enghien-les-Bains peuvent venir s'inscrire à la médiathèque d'Enghien-les-Bains. C'est gratuit et ils accéderont ainsi à la bibliothèque numérique dans laquelle on propose, par exemple, la plateforme Tout Apprendre. Et donc, ça peut être un très intéressant, en fait, pour un chef d'entreprise aussi, de voir toutes ces formations qu'il peut y avoir pour développer justement son commerce. Et en plus de ça, on a créé un fonds justement dédié à la vie de l'entreprise au sein de la médiathèque. Et ça, j'y tenais particulièrement. C'est un fonds qui est à part entre tous les autres et c'est celui-ci qui est dédié à celui qui veut reprendre, qui veut reconvertir, bref, qui veut s'adapter justement, comme je disais, à ce monde fluctuant qui demande de plus en plus de robustesse. Nous sommes là à la médiathèque. Donc voilà.
Laetitia, est-ce que vous communiquez sur ces avantages que vous offrez aux salariés d'Enghien, comme vous le dites ?
Eh bien, aujourd'hui, ça en fait partie.
Oui.
Très peu, ça en fait partie. Avec Madame Pantier, nous pensions voir l'association des commerçants locaux, justement, pour leur faire part de tous ces services mis à disposition pour eux, mais également pour leurs salariés. Et donc, c'est un bon moyen, justement.
Oui. Mais Bruno Magret, je vous en prie.
Oui. Les philosophes ont l'habitude de dire que il faut vivre, c'est l'art de cultiver son propre jardin. J'aimerais revenir sur la notion de culture. C'est pas anodin où l'agriculture et la culture au sens intellectuel du terme ont un lien parce que c'est pratiquement le même mot. Et donc quand je pratique la culture, l'agriculture, il faut retourner la terre, il faut la rendre vierge, hein, pour enlever toutes les plantes adventistes. Eh ben le mot culture. Quand on se cultive, normalement, on est censé à chaque fois se remettre en question, retourner la terre de son esprit pour la rendre vierge et enfin pouvoir penser par soi-même et planter les idées qu'on a véritablement envie de planter. Donc, en fait, tout ça, c'est très, très
voisin. Magnifique. Merci infiniment, Bruno. Je voudrais demander à Nicolas Combassuc comment vous réagissez un petit peu à cette intervention de Bruno Magret par rapport à la culture.
Ça me fait penser à une citation d'un réalisateur et scénariste français, Bertrand Tavernier, qui dit que la culture est une arme de construction massive.
Ah oui, bravo, très bien, je connaissais pas. Bon, merci à vous. Donc Laetitia, alors vous avez depuis que vous avez lancé ce projet de Grainaud-Bouturothèque et qu'on vous a suivi, parce que c'est surtout ça le plus important, c'était pas seulement d'avoir ce projet. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de plus de boutures, de plantes, il me semble. Donc peut-être voulez-vous faire un appel
Alors, si je devais faire un appel, je suis à la recherche de citoyens volontaires, heureux d'être et qui ont eux aussi envie de partager leur savoir. À savoir, oui, comment on fait un petit semis, comment on fait oui. une bouture. Donc, j'appelle toutes les personnes qui écoutent l'émission à venir et proposer leurs ateliers. Nous sommes là, on verra comment on peut s'organiser. Mais nous voulons viscéralement remettre le citoyen au cœur même de ses services publics et de la cité.
Donc, aussi bien jeune que moins jeune, hein, si j'ai bien compris, puisque Nicolas Combassuc, vous nous parliez des jeunes citoyens qui sont les ambassadeurs de demain.
Tout à fait.
Mais ça concerne aussi les adultes complètement, bien sûr. Merci Laetitia et félicitations pour toute cette énergie et cet enthousiasme, hein, comme vous l'avez dit, à briser les stéréotypes. Et bien, je vous souhaite d'avoir que votre demande ait été entendue et que vous allez être inondée de nouvelles boutures dans les prochains jours.
Merci.
On marque une nouvelle pause et on se retrouve juste après.
À me croire le seul à connaître tout de vous. J'en ai refait des concerts en rêvant de voir apparaître Marie-Lou. J'inventais des lettres à France en solitaire, en silence. Si je n'ai pas su l'écrire, je voulais simplement te dire que si. Si j'existe, j'existe, c'est d'être fan, c'est d'être fan. Si j'existe, ma vie, c'est d'être fan, c'est d'être fan. Mais qui peut dire je t'aime, donc je suis. J'en ai connu des hôtels en attendant un signe, un geste de ta part. J'en ai suivi des galères, pris des trains, fait des kilomètres pour te voir. Derrière une vitre, un grillage, quelque chose à retenir, faire comprendre avant de t'enfuir que si. Si j'existe, j'existe, c'est d'être fan, d'être fan. Si j'existe, ma vie, c'est d'être fan.
Fan, c'est d'être fan. Êtes bien sur IDFM Radio.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio à l'économie en direct, où ce matin, donc, nous avons le plaisir de présenter la Greno Bouturotech qui existe depuis plusieurs mois quand même, je crois. Elle a été inaugurée, Laetitia, vous savez,
oh, ça va faire
fin novembre.
Oui, ça va faire 4 mois.
Ah oui, donc c'est très récent. Alors Laetitia, avant de donner la parole à Bruno, vous avez quand même une information importante à nous donner concernant des révisions pour les examens. Donc je vous laisse nous présenter.
Oui, comme chaque année, la médiathèque, dans l'idée de simplifier, de faciliter justement l'appropriation du lieu médiathèque, on a préparé avec une de mes collègues un document qui recense tous les bons plans pour réviser ces examens. Notamment tout ce qui était lié à la préparation mentale, avec les cours en ligne, sans les cours en ligne, toutes les ressources disponibles à la fois chez nous ou en ligne ou sur le net. Et tout ça à destination des troisièmes collégiens et des lycéens seconde, première, terminale. Donc dites-le autour de vous. N'hésitez pas. La médiathèque peut accueillir une centaine de personnes pour justement préparer ces examens pendant cette période un peu tendue. On va voir éventuellement si on ne peut pas disposer aussi d'une salle pour que les jeunes puissent s'entraîner au grand oral.
Oui.
Donc voilà, ça compte beaucoup pour nous. On travaille beaucoup sur l'accueil de ces jeunes gens. Voilà, notamment en les écoutant quand les choses vont mal, etc. Mais la médiathèque est là, présente pour eux. Dites-le autour de vous. Nous sommes présents.
Ça va bien au-delà de
tout ce travail pour recenser.
Oui, c'est
les bons plans.
Oui. C'est ça. Oui. Ça va bien au-delà du simple prêt de livre. Hein. On est bien d'accord.
Tout à fait.
Vous avez un programme pour ces révisions, Laetitia. Vous avez des dates à nous donner?
Des dates, non. Elles commencent dès à présent.
Oui.
Le document est prêt. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un document qui va recenser vraiment tous les bons plans. Alors, j'aime pas trop le terme bon plan pour réviser, mais en tous les cas, on a un vrai travail de curation pour aller voir, tester, voir ce qu'on disait aux enfants, etc. Voilà, surtout le prisme justement des matières qu'ils auront à préparer et justement sur le volet bien-être et préparation mentale.
Alors vous nous ferez passer le programme quand il sera et puis on pourra le diffuser. Et alors je crois que votre information vient aussi en complément avec une information que veut nous donner Nicolas.
Oui, du coup la ville propose à travers différents lieux, et c'est ça qui est assez magique sur le territoire d'Anguin, c'est qu'on a la chance d'avoir des lieux assez extraordinaires et complets à différents endroits de cette commune, et notamment donc il y a la médiathèque, mais il y a aussi donc le kiosque avec la structure information jeunesse et son studio qui propose aussi des activités complémentaires à celles de la médiathèque autour de dispositifs, par exemple révise ton brevet, ou tout simplement quand les jeunes s'inscrivent au studio, une structure jeune, la possibilité d'avoir un accompagnement en fin de journée avec les animateurs de manière à pouvoir se poser et puis réviser en toute quiétude tout au long de l'année. Donc effectivement il y a des actions un peu plus coup de poing au moment des épreuves, mais il y a aussi une action entre guillemets plus à long terme où on accueille tout au long de l'année des jeunes tout simplement pour les aider dans leur vie quotidienne de jeunes scolaires.
Et dans ces rencontres, vous avez beaucoup de candidats.
Ah c'est un flux.
Oui.
Mais oui, on a un nombre important de candidats qui vont venir un petit peu hors les murs. Hein, mm-hmm. Mais pour le coup, après, c'est vraiment le collège et le lycée qui va générer entre guillemets la réponse.
Qui ont compris qu'il y avait vraiment un lieu dédié.
Oui, voilà. Ouais. En tout cas, il y a un lien constant entre les établissements scolaires et la structure jeunesse de la ville.
Bah écoutez, bravo pour cette initiative. Bruno Magrège, en écoutant toujours Nicolas, Laetitia et Françoise, vous-même, est-ce que vous, quand vous donnez vous faites vos ateliers philo, les jeunes en profitent pour leurs examens?
Oui, en plus, ils apprennent à regarder la philosophie d'une autre manière, mm-hmm. c'est-à-dire... ils échappent un peu parfois au cours didactique qui leur est imposé et ça se passe toujours à travers un débat et surtout une enquête où on cherche ensemble, parce que l'enquête philosophique c'est quelque chose de fondamental. Quand on mène une enquête, on revient sur les présupposés, sur les préjugés que l'on a et à chaque fois il y a un redémarrage à zéro et on cherche ensemble et on tâtonne dans l'obscurité, ça veut dire que l'esprit travaille vraiment et ça rétablit la notion de dialogue, enfin ça rétablit beaucoup de choses qui peut-être parfois dans l'aspect scolaire peut disparaître.
Alors j'ai vu que vous étiez l'initiateur du mouvement des cafés philo. C'est magnifique.
On va corriger.
Ah bon, c'est l'information que j'avais.
En fait, le véritable initiateur s'appelait Marc Sauté puisqu'il est décédé. Marc Sauté était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux consultations philosophiques. Il était spécialiste en même temps de Nietzsche. Il était parti en Allemagne voir un monsieur qui s'appelait Gerd Arenbach qui a commencé à inventer ce qu'on appelle les consultations philosophiques, c'est-à-dire au lieu d'aller voir un psychiatre, un psychanalyste ou un psychothérapeute, vous allez voir un philosophe, ce qui n'est pas du tout le même travail d'ailleurs. Non. Et Marc Sauté avait l'ambition de monter un cabinet de consultations philosophiques à Paris, qu'il a d'ailleurs monté, rue de Sévigné. Et puis il avait l'habitude de se réunir avec des amis à lui, qui l'aidaient à monter son projet au Café des Phares, place de la Bastille. Et puis il a été invité par une radio, France Inter, et puis... Lors de l'émission, il a évoqué le fait que tous les dimanches matins, ils se réunissaient. Et moi, déjà, je participais sur la place Beaubourg. Peut-être vous connaissez ces personnages haut en couleur comme... comment il s'appelait je sais plus son nom. Il avait une bicyclette. Enfin, il était assez connu.
Ça va vous revenir.
Ouais, ça me reviendra. Bon, il y avait ce qu'on appelle des speaker corners qui montaient sur des plots, qui haranguaient les foules, qui provoquaient le débat, un peu comme à Hyde Park en Angleterre. Et moi, j'étais habitué de ça. Puis on était dans les cafés. Et puis un ami à nous avait été voir donc ce premier débat et les gens pensaient qu'il y avait un débat donc et on a été voir ce premier débat et Marc Sauté a accepté de faire un débat philosophique tous les dimanches matins à 11h et depuis ça fait des émules, ça s'est nationalisé, mondialisé, on a fait des colloques internationaux de café philo, on a même vu des gens qui venaient de Tokyo où il y avait des cafés philo à Tokyo, donc c'était une belle aventure. Mais le véritable initiateur c'était Marc Sauté. Disons que moi j'étais dès le départ présent et je suis l'un des initiateurs.
Oui, vous l'avez suivi et avez perpétué
exactement.
Exactement. Complètement dans la transmission encore.
Voilà, tout à fait.
Alors ces ateliers de philo, donc vous c'est adulte, enfant, adolescent, ça, donc vous venez plusieurs fois sur Enghien, comment vous êtes organisé?
Tous les mois.
Tous les mois,
voilà. Peut-être qu'on va replacer un cadre théorique dans lequel j'interviens, parce que sinon on ne pourra pas vraiment comprendre.
Oui.
On va dire qu'il y a deux manières de voir la philosophie, le concept philo. Il y a la philosophie, bon, universitaire, scolaire, etc. Et puis il y a une conception tout à fait populaire, naturelle, quand quelqu'un par exemple est agressé et qu'il ne répond pas à l'agression, qu'il a un certain calme intérieur, on dit qu'il est philosophe. Ça veut dire qu'il développe une intelligence sociale, hein, fondamentale, comportementale, qui fait que il y a deux visions donc de la philosophie. Une vision universitaire, académique, qui a son importance, et puis une vision, une philosophie qui s'adresse à nous tous, parce que nous savons tous très bien que si nous ne mettons pas de sagesse dans notre vie, nous souffrons. Mmh. Hein? Donc, et dès le départ, c'était ça la philosophie.
C'est-à-dire qu'en fait, si on ne peut pas changer le monde, il faut changer notre regard.
Changer notre regard et puis travailler sur soi, ouais. et voilà, et surtout réapprendre à avoir des relations intelligentes avec soi-même, avec les autres, avec la nature, avec la vie, quoi. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on est né, à mon avis, hein, c'est ça l'évolution. Hein. Et donc, nous, c'est cette partie-là qui nous intéresse, et ça rentre dans le cadre de la citoyenneté, ça évidemment, parce que tout citoyen dans une démocratie doit apprendre à penser par lui-même, sinon on n'est pas dans une démocratie. Et apprendre à penser par soi-même, ça veut dire être capable de se remettre en question, de douter, de refaire ce travail, de remettre sans arrêt son ouvrage sur l'établi en ce qui concerne notre réflexion. Des citoyens éclairés. Je sais pas, dans notre culture... quand on parle d'héritier du siècle des Lumières, faut comprendre ce que ça veut dire les Lumières. Ça commence par, alors ça commence déjà bien évidemment en ce qui concerne notre tradition dans la Grèce antique, où chacun apprend à développer la souveraineté individuelle, apprend à penser par lui-même, et puis l'humanisme, et puis les Lumières, on nous dit quand même, je pense à Kant, ayez le courage de vous servir de votre propre entendement. Ayez le courage de vous servir de vos propres lumières. Ce que Descartes appelait le bon sens d'ailleurs, hein, c'est cette intelligence naturelle, vivante, qui est en, que l'on porte en chacun de soi. Être philosophe, on peut être professeur de philo et pas être philosophe. On peut être philosophe et pas être professeur de philo. Quelqu'un qui cultive sa terre ou qui, bah, il peut être d'une sagesse extraordinaire, alors quelqu'un qui a beaucoup de savoir peut être un sombre imbécile. Donc il faut bien replacer les choses. Pourquoi on intervient et quelles raisons nous avons de faire ce travail? La philosophie, c'est une pratique, c'est un mode de vie, une manière d'être. Et la première des choses que l'on doit chercher, c'est à essayer de cultiver cette tranquillité intérieure que les Grecs appelaient l'ataraxie, ou qu'on appelle la paix, tout simplement. Et surtout, ça passe par le dialogue, l'apprentissage du dialogue. Je vais me permettre un peu une critique des médias. Quand je regarde BFM TV, CNews ou LCI, ou je suis toujours étonné de voir des gens qui se crêpent le chignon. Je vois toujours étonné des gens qui ne s'écoutent pas, des gens qui ont des mots d'ordre à faire passer sans s'occuper de ce que pensent les autres. Et je me dis que si je mets mes enfants devant des gens comme ça, ils apprennent tout le contraire de la démocratie. Faut jamais oublier que le dialogue était quelque chose, une pratique. On retrouve ça partout, hein. On retrouve ça même dans le bouddhisme tibétain, par exemple, où quelqu'un est assis, pose une thèse et l'autre contredit cette thèse et l'autre doit apprendre à rester calme et serein. On pratiquait ça beaucoup dans notre travail dans la philosophie grecque, dans les écoles grecques, où quelqu'un reposait une thèse et on questionnait cette thèse jusqu'à ce qu'elle s'effondre, ou on la critiquait jusqu'à ce qu'elle s'effondre, et l'autre devait apprendre finalement à être très calme et à accepter la situation. Il est évident qu'apprendre à dialoguer, ça rebondit partout. Ça rebondit dans le monde du travail, ça rebondit avec nos enfants, avec nos ados, sinon quand ils claquent la porte, ben ouais, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien. Il est évident que si on apprenait aux enfants à dialoguer le plus tôt possible, le monde n'aurait pas cette couleur qu'il a aujourd'hui, qui est extrêmement violente. Donc c'est réapprendre à vivre, hein, et philosopher, c'est apprendre à vivre. Donc j'aime bien dire qu'il y a deux divinités.
Donc c'est pas oui. Apprendre à mourir, comme disait Montesquieu.
Apprendre à mourir et apprendre à vivre, ça va ensemble.
D'accord.
Ça va ensemble. Et j'aime bien parler de... Il y a deux divinités qui président dans la philosophie grecque à la philosophie. Vous avez d'une part Apollon, qui est le dieu de l'intelligence rationnelle, équilibré, là, voilà. Et puis vous avez Athéna. Athéna qui est la déesse de la sagesse. Hein. Et alors, Apollon, c'est le dieu solaire, c'est un dieu masculin, évidemment. Hein. Et puis Athéna, elle est lunaire, hein, c'est une femme. Et son emblème nocturne, c'est la chouette.
Hein,
ce qui veut dire qu'il y a deux types de philosophie. Il y a le type de philosophie qui est fondé sur l'épistémé, c'est-à-dire la bibliothèque, tout le savoir constitué que l'on possède. Hein. Et puis il y a la phronésie, qu'on traduit par prudence, mais qui est beaucoup plus large que ça. La phronésie, c'est l'intelligence relationnelle. Athéna, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle est la déesse de la guerre, mais pas au sens de Arès, hein, mais au sens de la stratégie, de la diplomatie, voilà. Comment la ruse, puisque bien évidemment Athéna soutenait Ulysse. Donc c'est cette forme-là, hein, cette intelligence sociale, relationnelle que l'on doit apprendre à développer. Et là, on constate que c'est une pratique. C'est pour ça qu'on appelle notre travail philosophie pratique, philosophe praticien. Et ça vient de ce qu'on appelle les nouvelles pratiques philosophiques qui ont leurs assises aux Journées mondiales de la philosophie tous les ans, dans lesquelles, évidemment, s'opèrent les cafés philo, mais il y a aussi la philosophie pour les enfants, il y a aussi les consultations philosophiques dont je parlais tout à l'heure, ou encore la philosophie en entreprise, c'est-à-dire une philosophie qui s'arrache de son cadre universitaire et scolaire pour revenir dans la société entre les mains du citoyen. Parce que chaque citoyen, chaque être humain doit apprendre à devenir philosophe. Et c'est dans ce cadre que j'interviens.
On vous écouterait des heures. En tout cas, moi, je vous écouterais des heures. Merci infiniment. Bruno, donc ces ateliers que vous animez, est-ce que vous pouvez nous parler d'un moment marquant ou d'une discussion particulièrement enrichissante que vous auriez eue lors d'un atelier?
Oh, il y a la détail, là.
La détail, bah, une au hasard.
Plongé dans mes souvenirs. Non, peut-être marquant, pour dire que j'arrive peut-être au bon moment, des fois, Avec les enfants, je parle, parce que bon, je pratique des enfants, des ados, des adultes, c'est à chaque fois un petit peu différent quand même. Mais avec les enfants, quand je, parfois il m'est arrivé de voir un enfant me dire « mes parents sont racistes ».
Ah oui.
Et c'est toujours étonnant de voir que l'enfant, au tout départ, peut-être 8-9 ans, il a cette capacité d'abord, cette fraîcheur d'esprit qui lui permet d'avoir ce recul naturel par rapport à tout le conditionnement qu'on pourrait lui ingurgiter dans son esprit. Et c'est le bon moment d'intervenir. Parce qu'après, évidemment, l'enfant finit par adopter la couleur de sa famille, hein, tout simplement. Et il lui faudra rencontrer quelqu'un, s'il a cette chance, pour lui apprendre à penser autrement et avoir une autre perspective sur la vie. Mais voir ses enfants comme ça, avoir ce recul fondamental, c'est étonnant d'ailleurs. On dit que la philosophie, c'est Aristote qui dit ça, que la philosophie commence par l'étonnement.
Ah oui.
Hein, on philosophe pas parce qu'on est angoissé. Mm-hmm. Même si ça aide à ne plus
être
angoissé, on philosophe d'abord parce qu'on est étonné, émerveillé par le fait d'être vivant. Et oui, avoir deux pieds, deux mains, deux jambes, voir des arbres, des fleurs, des oiseaux. Mm-hmm. Aujourd'hui, ça nous paraît normal parce qu'on est conditionné, on est enfermé dans une routine, on regarde plus. Mais retrouver cette fraîcheur de regard de l'enfant qui s'étonne d'être vivant, qui se dit, voilà, quand vous dites philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est dans ce sens-là, c'est dans le sens de la vie. C'est-à-dire que, bah oui, chaque jour est le dernier, peut-être, et donc carpe diem, cueillons l'instant présent. Si j'aime quelqu'un, des fois on perd les gens et on regrette, une fois qu'ils sont partis, qu'on leur a pas pu leur dire je t'aime. Et bah oui, si j'étais conscient que... Bah, peut-être que je lui dirais je t'aime, parce que je regarde, si je mange mon dernier repas, c'est un super repas que j'aime beaucoup, c'est la madeleine de Proust de mon enfant, je vais pas le dévorer comme on dévore un burger, hein. Je vais le goûter, vous voyez. Si on pouvait vivre comme ça chaque instant, ce qui entre nous est un peu impossible, hein, c'est pas si simple, hein. Mais si on pouvait vivre avec cet émerveillement continuel, tension, je dirais bonne au sens positif, bah, ça serait super quand même. Se rendre compte qu'être vivant, c'est quand même génial, hein.
Écoutez, j'ai le sentiment que ça me donne envie. J'avais assisté à vos ateliers il y a bien longtemps. Ça me donne envie de revenir parce que vraiment, vous en parlez très très bien avec passion et c'est très agréable. Françoise,
oui, vous comprenez pourquoi on peut pas se passer, plus se passer de Bruno.
Je comprends.
Au sein de la médiathèque.
C'est ce que je me disais. C'est pour
chaque
ça
fois, c'est l'étonnement. Il a oublié de dire simplement que dans le concept, dans la pratique de ce qu'il peut distiller, c'est que on ne pense jamais le sujet à l'avance, sinon tout le monde arriverait avec son ChatGPT et ferait une conférence. Donc de quoi avez-vous envie de parler? Et ça fonctionne pour les trois groupes, tous les niveaux d'âge, sur le moment. Et puis c'est le sujet plébiscité qui sort du chapeau et que l'on va traiter avec... on prend le temps de redéfinir le sujet, les mots-clés du sujet.
Et Bruno, maintenant que
Bruno est chaque fois différent. Ouais. Je le vois pratiquer auprès des adultes. Les adultes, c'est réapprendre à s'écouter, à faire que la réflexion rebondisse pierre par pierre entre les êtres, vraiment repenser, réfléchir ensemble, s'écouter, redistribuer la parole, sinon dans le monde profane, j'allais dire, on s'écoute plus,
on n'a pas ce recul dont vous parliez.
Et je le vois se régaler très souvent avec les petits et les jeunes adultes, vraiment.
Il y a peut-être intervenir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on est la philosophie occidentale, parce que la philosophie, c'est universel. Nous, on prend la philosophie dans son sens étymologique, c'est-à-dire l'amour de la sagesse. La sagesse et le savoir, c'est pas tout à fait pareil, hein. Et que la connaissance et le savoir n'est pas tout à fait la même chose. Apprendre à vivre, c'est une connaissance qui excède le savoir. Comme on a été enfermé dans une période très très rationaliste, on a oublié une chose, c'est que chez les Grecs, chez beaucoup de peuples, la notion de souffle, le pneuma chez les Grecs était très importante. C'est Chrysippe qui disait que le logos, c'est-à-dire la raison universelle, d'accord, et voyage sur les ailes en quelque sorte du souffle du pneuma. C'est l'inspiration. c'est très important, c'est l'inspiration, parce que réfléchir est un acte créatif. C'est pas un acte où on répète comme des perroquets ce qu'on a appris dans les livres, etc. C'est un acte créatif. Et dans un débat, c'est important de retrouver cet acte créatif, cette inspiration, où parfois, on est surpris par soi-même d'ailleurs, on dit des choses, tiens, comment j'ai pu dire ça, etc. C'est fondamental. Et donc, c'est pour ça que, rien n'est prévu à l'avance. Rien n'est prévu à l'avance. Et puis surtout la notion d'enquête. Quand on enquête, ou quand on pose une question, parce que beaucoup de gens posent des questions, mais ils ont déjà les réponses. Et on se demande pourquoi ils posent des questions d'ailleurs. Quand vous posez une question, c'est que vous ne savez pas. Et ce non-savoir est fondamental. Socrate disait, je sais une chose, c'est que je ne sais pas.
Rien, oui.
C'est important de revenir à, c'est dans ce sens-là aussi, apprendre à mourir, hein, apprendre à mourir à tout ce qu'on croit connaître.
Oui.
Apprendre à mourir au connu, dans lequel on est bien souvent enfermé, hein, pour s'ouvrir à l'inconnu, voire même à l'inconnaissable peut-être. Et donc c'est important de lorsque on fait un débat, quand on mène cette enquête, eh ben on avance. C'est pas une conférence, parce qu'une conférence c'est quelqu'un qui vient donner des éléments du savoir, etc. Et puis les auditeurs, enfin ceux qui ont écouté la conférence bien sagement à la fin, lèvent la main si on peut poser une question ou pas. Là c'est pas du tout ça. Là il s'agit de chercher ensemble. Dans notre pratique on appelle ça une communauté de recherche. Et quand on mène une enquête, on tâtonne dans l'obscurité, on sait pas. Faut pas avoir peur des blancs dans un débat, on sait pas où on va, et moi-même je sais pas où on va. Et c'est toujours drôle parce que il y a toujours un fil invisible qui est là, une logique qui excède la simple logique rationnelle, qui est vraiment, on retrouve là cette notion du logos qu'avaient les Grecs, c'est-à-dire que les chrétiens ont adopté dans le sens du verbe, etc., qui transcende un petit peu notre intelligence rationnelle et qui fait que on est conduit quelque part, c'est mystérieux, c'est étrange, et on retombe toujours quelque part. Il y a quelque chose qui s'est construit ensemble. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que il s'agit pas de préparer. D'ailleurs, quand on l'étudie, moi je dis toujours, quand on étudie un auteur, un philosophe, il faut mettre ses pas dans les siens. Il faut pas le lire simplement. On ne peut comprendre que lorsqu'on a mis ses pas, ce qu'il a vécu. Voilà. Ouais.
Merci infiniment. Écoutez, encore une fois, je me répète, mais on pourrait vous écouter des heures, malheureusement l'heure tourne, et donc je vous propose qu'on fasse encore une courte pause, et puis je reviens vers Nicolas Combassuc, parce que je crois que vous devez être un directeur des actions éducatives, vous devez être un directeur heureux en entendant tout ce
chanceux.
Que nous entendons, chanceux. À tout de suite.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Dernière ligne droite de l'économie en direct sur IDFM Radio, en présence de Françoise Pantier, directrice de la médiathèque Georges Sand, Laetitia Vaudin, bibliothécaire, Bruno Magret, philosophe praticien, Nicolas Combassuc, directeur de l'action éducative à Enghien-les-Bains. Alors Nicolas, je vous disais juste avant la pause que vous deviez être un directeur heureux, vous dites chanceux, donc c'est vrai que cette mission que vous avez de directeur de l'action éducative est très vaste également. Je vous laisse déjà, peut-être vous nous en avez dit quelques mots tout à l'heure, mais peut-être nous donner le sens de votre mission.
Tout à fait. Pour rebondir sur le fait que j'ai dit tout à l'heure chanceux,
oui.
Le maire très souvent le dit, parle d'une oasis, pour le coup
vrai.
À l'échelle locale.
Oui.
Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des ressources assez extraordinaires qui sont à faire découvrir et puis aussi à exploiter du coup avec la population. Alors. Ma fonction, c'est directeur, mon métier, ma profession, directeur de l'action éducative. C'est pas un métier très connu à l'école. Je pense pas qu'on explique très clairement le métier de directeur de l'action éducative. On parle d'enseignant, on parle d'animateur, on parle de tous les métiers de proximité, mais finalement des métiers un peu plus éloignés, avec une stratégie globale. On va parler d'éducation, on en parle peu. Mon métier consiste donc à piloter des services à l'échelle d'une ville, mais avec une cohérence autour des établissements à visée éducative.
D'accord.
C'est-à-dire que les structures qui vont être les services qui vont être sous ma responsabilité vont avoir pour vocation une visée éducative. Donc on va parler de petite enfance, on va parler d'enfance, on va parler de jeunesse et on va parler de sport à Enghien-les-Bains, mais on pourrait très bien et rentrer en relation également avec la culture, parce que la culture avec un grand C, c'est un petit peu le berceau de tout.
Bien sûr.
Voilà. Ensuite, on se structure autour d'un projet éducatif de territoire. Celui-ci, il est construit donc avec l'initiative du maire et de son équipe, et autour de la notion de citoyenneté, d'apprentissage, de loisirs pour notre jeunesse au sens large. Et bien sûr, tout ça, ça se construit autour d'une culture, une culture commune. Pour faire ce projet éducatif de territoire, au-delà d'un travail d'inventaire, on va également se poser la question du diagnostic et d'actions concrètes à réaliser sur le territoire à travers les différents univers, le chemin que va parcourir le jeune de la petite enfance. Et on va commencer par le parent, finalement, qui fait naître un enfant. On va parler de points conseils petite enfance, par exemple, le lieu où on prépare le parent à l'arrivée du bébé. Donc on commence même avant sa naissance, jusqu'à ces lieux ressources qui sont les crèches, les domiciles avec les assistantes maternelles, puis l'école, l'accueil de loisirs, les structures ressources, et puis le milieu associatif qui est varié sur le territoire d'Enghien-les-Bains, jusqu'aux installations sportives, etc. Bien. On a parlé de diagnostic, on va parler également d'objectifs à travers ce projet éducatif de territoire, et on va parler d'un lieu, de lieu sécurisant, l'école. Il faut savoir que les villes sont en charge, dans les écoles du premier degré, de garantir le lieu. D'accueil de l'enfant, là où il va rencontrer son enseignant, mais également d'autres personnels de l'école qui sont, eux, à la charge de la ville, c'est-à-dire les animateurs, les agents de restauration, les agents d'entretien, tous ces gens qui font que l'école vit.
Oui, est un lieu où on se sent bien.
Tout à fait. Le deuxième point important, ça va être l'ouverture de ces jeunes à la culture, avec un grand C. Donc le maire va impulser une dynamique globale autour de la culture, et dans la culture, il y a le sport aussi, et tout un tas de structures. Et enfin, le dernier point important, le dernier objectif d'un projet éducatif de territoire que le maire et son équipe ont fixé, c'était la question de la citoyenneté. La question de vivre ensemble, la question de comment je peux m'engager autour de valeurs communes, de valeurs communes et républicaines, car le maire, premier magistrat de la ville, a aussi ce devoir de création de liens autour des différents administrés, différents citoyens qui vivent sur son territoire. Donc on parle de valeurs communes, et puis bien sûr ça fait le lien du coup avec Bruno, avec la question de la philosophie bien entendu, qui est un héritage incroyable, pas seulement effectivement des siècles des Lumières, qui va être un ancrage solide, mais bien plus ancien.
Oui, on parlait de patrimoine tout à l'heure, c'est vraiment...
Je pense que l'homme a toujours été philosophe, j'imagine. Enfin, on peut l'imaginer, on ne peut pas en être sûr, on peut l'imaginer que l'homme a toujours été philosophe.
A toujours essayé en tout cas de
philosopher. Par contre, ce qui fait notre identité... Je pense, ensemble, on parle de nation, c'est justement, c'est cet héritage autour du siècle des Lumières, autour de l'humanisme. Et bien entendu, je pense qu'on a un devoir pour plus tard de construire un citoyen qui pense. Et donc, la philosophie, bien sûr, a toute sa place au sein de l'école, au sein des structures d'éducation formelle et informelle. Quand on parle d'éducation formelle, on parle souvent de l'école, on parle du temps scolaire, mais l'éducation informelle, tout aussi importante, elle se fait en dehors de l'école, en dehors du temps scolaire. Et puis, il ne faut pas oublier que le principal éducateur, ça reste le parent.
Bien sûr.
Donc, ça reste un interlocuteur privilégié.
Bruno,
mais
Bruno Mazet.
Il ne faut pas oublier que les premiers temps de l'humanité... La notion d'individualité était quelque chose de qui n'existait pas vraiment. C'est-à-dire, vous pouviez, on pouvait prendre votre vie parce que votre arrière-grand-père avait fait du tort à un autre clan. Mm-hmm. Hein. On retrouve ça dans la Bible d'ailleurs. On est puni jusqu'à la septième génération. Et puis, progressivement, alors j'aime bien ce philosophe Karl Jaspers qui parle de période axiale où on va retrouver Siddhartha en Inde, on va retrouver Socrate, on va retrouver plus tard Jésus de Nazareth et puis d'autres qui autour de 5 siècles où on commence à dire que d'abord l'individu est unique, chacun est unique. Le fils ne peut pas payer ou la fille ne peut pas payer pour le père ou la mère. Et progressivement va se développer cette souveraineté individuelle qui va se développer tout au long de l'histoire, qui fait qu'un individu doit être capable de penser par lui-même, doit être capable de réfléchir aussi à la morale, mais de façon individuelle. Et progressivement, cette souveraineté individuelle va donner naissance à ce qu'on appelle la démocratie, à la laïcité, à toutes ces valeurs. Et on voit bien d'ailleurs dans tous les... chez toutes les organisations totalitaires, cette individualité disparaît.
Et
il faut se battre.
Oui.
Alors c'est pas simple l'individualité, parce que la plupart du temps, on aime mieux vivre en troupeau. Il y a moins de responsabilités, on réfléchit moins, des autres pensent pour nous. Être individu, c'est un peu solitaire, s'arracher à la foule, penser par soi-même. La liberté, on aime beaucoup parler de la liberté, mais quand on voit la liberté en face de soi et la responsabilité de la liberté, parce qu'il faut pas mais on confond la liberté et la libéralité, surtout quand dans le domaine économique où je fais ce que je veux, j'ai de compte à rendre à personne. Non, la liberté, c'est une lourde responsabilité. Et si nous voyons ce que c'est que la liberté, je crois malheureusement qu'il y a beaucoup d'entre nous qui préfèrent retourner dans leur esclavage mental. Donc c'est important de se battre pour que cette démocratie existe, pour qu'elle se développe, qu'elle s'améliore. Et Dieu sait aujourd'hui si elle est menacée. Et c'est un combat que nous devons tous mener. Et d'abord à commencer par penser par soi-même et accepter de se déconditionner. Et je sais que ça fait peur.
Oui, ça fait peur.
Je sais que ça fait peur, mais c'est ça de notre véritable courage, je pense.
Et alors je voudrais qu'on continue ce débat parce que c'est passionnant, mais l'heure tourne, comme je l'ai dit, parce qu'il y a un phénomène aujourd'hui, sont les écrans, qui sont un vrai fléau pour justement penser par soi-même. Donc moi, je propose que vous reveniez, puis qu'on reprenne ce débat parce que c'est trop passionnant. Donc si vous êtes d'accord, on prendra un rendez-vous pour parler. Puis comme ça, vous pourrez nous en dire plus sur l'avancement de la Grenoble-Tourotech. Alors voilà, parce que l'émission se termine. Nicolas Combassuc, peut-être aviez-vous quelque chose à ajouter ?
Non. C'était extrêmement enrichissant d'avoir ces échanges, effectivement, avec tout le monde. Et puis peut-être faire le lien avec ce que vous disiez, la Bouturotec, etc., c'est l'engagement des jeunes. Elle se traduit aussi sur Enghien-les-Bains à travers les chantiers jeunes qu'on lieu pendant l'été. Donc appel aux candidatures aux Enghien-les-Bains sur le territoire qui souhaitent avoir une expérience au sein de la ville, un chantier, c'est-à-dire... entre 14 et 17 ans, il y a la possibilité de vivre une expérience, un début d'expérience professionnelle encadrée qui permet tout simplement à cet acteur citoyen, jeune, qui a envie de découvrir ce que c'est qu'une collectivité territoriale et le service public.
En tout cas, on vous sent aussi très, très investi dans votre fonction. Donc bravo à vous et félicitations pour tout ce que vous devez apporter à cette jeunesse. Merci à vous. Françoise, un mot de conclusion avant de nous quitter.
C'est un peu difficile, mais je suis ravie d'être avec ces personnes-là aujourd'hui, qui sont justement, c'est plus complexe, on le disait, tous l'ont dit, c'est plus complexe de se remettre en question, c'est plus facile de faire la guerre plutôt que la paix, parce que ça demande de l'énergie, de la remise en question, et nos missions à tous les quatre, c'est œuvrer dans ce sens-là au maximum pour... C'est une remise en question, oui, tous les jours, et rester à l'écoute, et c'est ce qu'on disait là, c'est ce qui permet peut-être soit encore là, qu'on ait envie, et finalement c'est extrêmement riche et ça motive. Et
vous êtes des maillons très importants dans cette chaîne, justement, de la transmission et du savoir. Oui. Merci infiniment.
On l'espère.
Merci beaucoup à tous les quatre. Merci d'avoir été les invités en direct de l'économie en direct. Merci Francky pour la technique. À nos auditrices et auditeurs, merci de nous avoir été fidèles comme à chaque émission. N'hésitez pas donc à venir découvrir ce lieu unique qu'est la médiathèque et sa Grenoble-Tourotech et à participer aux nombreuses activités qui y sont proposées. Cette émission, on n'a pas pensé à dire quand sont vos ateliers philo, Bruno ?
C'est tous les mois, alors je peux déjà vous donner peut-être celle du mois d'avril. Il va y avoir le café philo adulte 5 avril à 15h. Et puis il y aura les cafés philo, les ateliers philo ados et enfants. Alors pour les ados, ça sera le 19 avril et ça sera l'après-midi à 15h pour les enfants. Ça dure 1h30 là pour les enfants. Ça sera aussi le 19 avril dans l'après-midi. Les ados, c'est de 10h30 à 12h30.
Des dates qu'on retrouvera dans le podcast. Oui. Et vous, Laetitia, dès que vous avez vos dates de révision pour aider à réviser, vous nous les donnez très rapidement.
Dès aujourd'hui.
Très bien, parfait. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, retrouvez son intégralité en podcast sur idfm.fr. Et mardi, je vous donne rendez-vous à 9h30 pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Belle journée et bon week-end.